Ces trois verbes, ils sont faciles à retenir. Hein. C'est parer, c'est réparer et c'est préparer. Voilà, c'est assez simple. Hein. Parer, réparer et préparer. À chaque fois, on ajoute quelque chose en plus hein, pour passer du parer au préparer avec le réparer qui est au milieu. Se parer. On va lire un premier texte dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 3, 1-7, et on va parler d'abord de ce verbe « parer » ou « parure hein, ». Quelle est là aussi, quelles sont les vérités spirituelles qui sont exprimées à travers ce texte? Alors, on va relire à partir du verset premier hein, une exhortation de l'apôtre Pierre qui dit ceci. « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parole ne soit pas, ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, et comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant « mon Seigneur ». Vous êtes devenues des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler d'une aucune crainte. Mais Marie vivait de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie, agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » C'est le passage où l'on trouve cette réalité de la parure, être même paré. Il est question de ces femmes de l'ancienne alliance qui se paraient. Alors Pierre d'abord rappelle ici le terreau qui nourrit le mariage, ou en tout cas la relation de couple, c'est l'amour. C'est l'amour. Et il régit, bien sûr, on le sait, les relations entre hommes et femmes. Hein, sans amour, il n'y a pas de lien. Sans amour, il n'y a pas de mariage qui dure. Nous le savons et on bénit Dieu de ce que ce matin, dans le couple chrétien, il y a la présence de Dieu, cette corde à trois fils, hein, souvent, qui est prêchée dans ces temps de bénédiction, où Dieu, avec nous, au milieu de nous, bien, nous tient et nous aide à progresser dans cet amour. Et ici, Pierre, dans le cadre où le mari n'est pas encore converti, eh bien, il présente hein, l'expression de cet amour comme une parure intérieure et cachée. Il est dit d'un cœur, la pureté incorruptible d'un esprit double et paisible. Et Pierre va donner un exemple. Il va donner un exemple, celui de Sarah. Tout à l'heure, notre frère hein, en a parlé dans sa prière. Sarah qui paraît de cette parure intérieure d'un esprit paisible, doux et tranquille, bien, va obéir à Abraham en l'appelant son Seigneur. Alors, on fait des recherches dans l'Ancienne Alliance, et c'est un peu mystérieux cette parole de Pierre, parce que, explicitement, on ne retrouve pas dans un récit cette interpellation. On ne peut que supposer. Et je suppose, avec d'autres, mais il y aurait peut-être d'autres interprétations, que c'est peut-être ou certainement à ce moment où, justement, eh bien, Sarah, qui va être informée qu'elle va mettre au monde un enfant alors qu'elle a 90 ans et qu'Abraham en a une centaine d'années, c'est certainement peut-être à ce moment-là que, malgré ce doute premier qui va l'en haïr, et la rire hein, connaît cet épisode, va malgré tout accepter la volonté de Dieu, malgré son grand âge, pour donner naissance, bien sûr, au fils de la promesse. Et c'est certainement dans ce cadre eh bien, qu'elle va appeler Abraham son Seigneur en acceptant la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, cette parure intérieure va lui permettre, tout simplement, eh bien, de manifester son amour envers Abraham, et puis d'accepter ainsi la volonté de son Seigneur. Alors, se parer. Bien, se parer, littéralement, c'est revêtir des vêtements et des ornements élégants. Moi, j'avais le mot « séant », voilà, hein, mais pour expliquer, c'est la même chose. C'est se parer, c'est revêtir de vêtements et des ornements élégants. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle Eh bien, que cette sorte de parure est une parure que nous recevons tous au moment où Christ, eh bien, vient habiter en nous par son esprit. Et on va voir quelques textes ce matin parce que l'Écriture est pleine de références, hein, du vêtement blanc, etc., de toute cette parure. On va juste en prendre quelques instants ce matin pour nous rappeler, eh bien, que c'est un commencement extraordinaire. Nous sommes parés. Il y a une parure incorruptible, hein, cette parure d'un esprit doux et paisible, dès lors que nous avons rencontré Christ, dès lors qu'il nous a fait la grâce de venir en nous, eh bien, il nous a revêtus tous de cette parure extraordinaire. Alors, la première référence, c'est Luc 15. Vous connaissez ce passage, hein. Voilà, versets 20 à 24, hein. Il est ici, vous l'avez lu, et puis on connaît, bien sûr, hein, cette réalité de ce fils qui est parti. Et lorsque, eh bien, il y a cette rencontre, donc après, voilà ce qu'il est dit, ceci, juste avant, verset 23. « Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et ses souliers aux pieds, amenez le veau gras, etc., etc. » Le plus beau vêtement, la plus belle tunique, la plus belle des parures. Le père n'a pas dit, bon, écoutez, on va lui mettre des habits de secours un petit peu, on va chercher dans la plus belle. Tout ce que j'ai dans la maison, on va sortir le plus beau, la plus belle des parures. Parce que l'ancienne est quand même, à mon avis, dans un sale état. Hein. Vous vous souvenez de d'où il revient, ce fils prodigue, et dans quel état il revient? On peut supposer ce qui lui sert de vêtements, ça ne doit pas être très très joli, ce n'est pas la dernière collection de Pierre Cardin ou quelqu'un d'autre, ça doit sentir mauvais, c'est déchiré, c'est rapiécé, c'est sale, etc. Et là, eh bien, le père dit, apportez-lui la plus belle des tuniques, la plus belle robe, hein, la plus belle des parures. Et ce matin, cette parure, on nous sommes parés, eh bien, c'est l'image de notre nouvelle vie en Jésus-Christ, de notre réconciliation pardon, avec notre Père Céleste. Nous sommes tous revêtus de cette parure ce matin, nous qui avons fait cette expérience de conversion avec Christ, et c'est une parure, c'est la plus belle, hein, vous, mesdames, messieurs aussi, hein, peut-être, qui aimez bien les beaux habits, hein, pas de honte non plus, alors, eh bien, vous arrivez dans un magasin et Dieu vous dit, je vous donne la plus belle. C'est la plus belle. C'est pas celle qui est en solde, c'est pas celle qu'il faudra faire une retouche, c'est la plus belle. Et ce matin, eh bien, c'est la joie du salut, la joie de rencontrer le Seigneur, d'être réconcilié avec le Père Céleste. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Une autre image de cette parure. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Hein, c'est une prophétie que Jésus va rappeler dans une synagogue de Nazareth, on y reviendra tout à l'heure. L'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour obtenir une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et puis la suite nous dit ceci, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Une parure de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de justice, etc., etc. Ici, eh bien, il est question d'une parure de louange. Et ça, c'est l'image de la joie, de la fête qui existe dans le cœur de Dieu. On l'a entendu ce matin. Dieu se réjouit, la Bible nous dit que Dieu se réjouit lorsqu'un seul pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel. Et cette parure ce matin, eh bien, c'est une parure de louange. On lui a donné notre cœur et Dieu s'est réjoui, et Dieu se réjouit ce matin. Et cette parure, cette belle parure, nous sommes parés ce matin, eh bien, de ce plus beau costume, le costume de la louange, le costume de l'adoration, et qui nous permet là aussi, eh bien, d'être renouvelés, d'être fortifiés. Dieu nous voit de cette manière ce matin, c'est extraordinaire. Hein, on est venu quand même avec des beaux habits, hein, et c'est une bonne chose, mais au-delà de notre habit ce matin, bien, Dieu voit cette parure de louange, ce manteau d'adoration. Et puis, il y en a un autre, c'est dans Ésaïe, au chapitre 61, verset 10, hein, et là, il est question d'un autre manteau, il est question, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse, et mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Un autre texte nous parle du manteau de la justice. Et ce matin, bien, nous sommes couverts par le manteau du salut, le manteau de la justice, le manteau de la délivrance. C'est la justice de Dieu qui nous couvre. C'est son manteau à lui, c'est son salut à lui, c'est sa justice à lui, mais il nous en recouvre. Et ainsi, bien, il couvre, il a couvert, il a ôté nos péchés, et désormais, bien, il y a un autre regard. Ce vêtement est visible aux yeux de toutes les autorités spirituelles, surtout de l'adversaire de nos âmes, surtout celui qui cherche toujours à nous culpabiliser et à nous dire « tu n'es pas digne d'eux ». Dieu, quelque part, t'a oublié, ou alors tu passeras après les autres. Mais ce matin, la Bible nous rappelle que c'est Christ qui nous justifie. Hein, qui accusera, on lira ce texte à l'heure, mais qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et ce matin, bien, nous sommes couverts de ce manteau de la justice. Lorsque j'étais un peu plus jeune, j'ai appartenu à certains clubs sportifs, notamment un club de foot. Et vous qui avez fait du foot, eh bien, lorsqu'il fallait rentrer sur le terrain, on n'y allait pas comme ça avec nos t-shirts, avec notre short personnel. On avait l'équipement du club et on était fiers. Il y avait le numéro qui était floqué, parfois le nom, ça c'était un peu plus rare. Il y avait les chaussettes, il y avait le short. On jouait aux couleurs du club et on était fiers. Mais après, il fallait quand même laver l'équipement, mais il ne nous appartenait pas. C'était au club et il y avait cette fierté de porter le maillot. Si on peut dire, ce matin nous sommes fiers. Nous sommes fiers de porter bien ce manteau de justice, du salut, de louange, de reconnaissance, parce que désormais il y a cette parure. Et cette parure fait de nous, comme Sarah et comme les autres, eh bien, fait de nous des hommes et des femmes au cœur désormais paisible, tranquille. Quelle assurance de savoir que nous portons cette parure. Nous sommes parés des plus beaux vêtements que Dieu puisse nous donner. Amen. Et c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Alors après le mot paré, il y a le mot réparer. Réparer. Alors, en français, ça veut dire parer à nouveau. Ça veut dire remettre en état. Ça veut dire remettre dans l'état précédent, remettre dans l'état initial. Et là, il y a une idée de reconstruction. Il y a une idée de restauration. On répare. On répare. En France, désormais, on ne jette plus, vous savez, on répare. Et je crois que c'est une bonne chose. L'écologie, les finances, etc. Il y a tous des circuits maintenant de réparation. Et je crois que c'est une bonne chose, ça évite le gâchis, c'est bon pour la planète, enfin, tout ce que nous pouvons entendre, et qui peut être parfois une réalité. Et si notre nouvelle parure ce matin nous donne une nouvelle identité, on est bien d'accord, eh bien, il y a une œuvre également de réparation qui va s'opérer également dans nos vies. C'est pour cela que Paul va écrire dans Romains 12:12, je ne sais pas si je l'ai donné, mais je le cite, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez littéralement, c'est métamorphosé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. » Ainsi, on va vivre des réparations, des restaurations, des reconstructions dans ce que nous sommes et puis, bien sûr, dans ce que nous faisons. Depuis notre naissance, eh bien, avant même de connaître le Seigneur, il y a dans nos vies, nous avons tous été, et on a vécu des moments douloureux, difficiles, et on a besoin d'être réparé, on a besoin d'être restauré. Et avec cette parure, il va y avoir aussi pour nous bien, ce temps de reconstruction, ce temps de réparation. Et il y a deux grosses images qui nous sont données, une dans l'Ancien Testament, Deux Rois 12:5. Nous sommes dans le contexte du temple de l'Éternel, et puis c'est dans ce contexte que dans l'Ancien Testament on va parler de réparer la maison de l'Éternel, réparer le temple de l'Éternel. Alors on va lire quelques versets. Et les questions au verset 6. Il arriva que la 23e année du roi Josias, les sacrificateurs n'avaient pas réparé ce qui était à réparer à la maison de l'Éternel. Le verset 8, peut-être. Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple, de s'être chargés des réparations de la maison. Et puis on peut aller au verset 12 également. Pour les maçons, les tailleurs de pierre, pour les achats et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel et toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Au fil du temps, en fonction des rois, le temple, comme tout bâtiment, bien, il se dégrade. Hein, surtout s'il manque d'entretien, surtout si les ennemis veulent et cherchent à le détruire, etc. Et ce matin, on pourrait se rappeler quand même que même si nous sommes devenus, je le répète, en Christ, le temple du Saint-Esprit, même si nous avons une nouvelle identité, même si on a une parure, et c'est la plus belle que Dieu puisse nous le donner, eh bien, depuis notre naissance, on vit tous des moments d'oppression, de lutte, de bouleversement, qui peuvent parfois nous fragiliser, nous déstabiliser, et on a besoin d'être réparé. On a besoin d'être restauré, on a besoin d'être reconstruit. La parure de Christ demeure, on est bien d'accord, il nous l'a donné, mais la réparation, là aussi, eh bien, est là. Parfois, elle est urgente, parfois, elle va prendre un peu plus de temps, mais il y a également cette œuvre de réparation. Il y a cette œuvre de réparation. On a besoin ce matin d'être réparé à l'intérieur, réparé dans nos émotions, réparé dans notre psychologie, dans notre psychique, dans notre caractère. On a besoin d'être réparé. Et Dieu le sait. C'est pas parce qu'on est paré, qu'on a une nouvelle identité en Christ, qu'on est devenu parfait ici-bas. On a besoin d'être réparé. Et le Seigneur va faire cette œuvre. Il va le faire en nous. J'ai besoin d'être réparé dans ce que je suis, dans ma personnalité, dans mon caractère, dans mes émotions. Et c'est l'image dans l'Ancienne Alliance de la réparation du temple, de la réparation de la maison de l'Éternel. Le psaume 23, verset 3 nous dit « Il restaure mon âme ». L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Et il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin, bien Dieu là aussi répare ce que nous sommes. Il répare ce qui est à l'intérieur, il répare, il accompagne, afin que nous puissions là aussi bien persévérer et nous fortifier. Je vous rappelle que réparer, c'est remettre dans l'état initial, c'est remettre à l'identique. Hein, on a tous entendu les efforts qui ont été faits pour restaurer la cathédrale Notre-Dame, hein, qui a pris feu il y a plus de 5 ans, et le pari est tenu, hein, 5 ans de restauration, mais les artistes qui ont fait ça, c'est extraordinaire. Eh bien, l'ont fait à l'identique, avec des techniques de l'époque, hein, pour la charpente, pour les vitraux, tout ça a été réparé à l'identique. Et heureusement qu'on le sait, c'est même peut-être plus beau qu'avant, parce qu'avec le fil du temps, des choses s'étaient dégradées. C'est une image aussi pour nous ce matin. Nous sommes réparés à l'identique. Ça veut dire quoi? On est réparés à l'identique de Jésus-Christ. On est transformés, 2 Corinthiens 3,18, de gloire en gloire à l'image de Jésus. Ce n'est pas une petite restauration vite fait avec 2 boulons puis un bout de scotch, mais c'est une belle réalité, c'est une véritable restauration, réparation à l'image de Jésus, à l'image de l'identique, à la conformité de ce que Dieu a dans son plan pour chacun d'entre nous. Parce qu'un jour, eh bien, nous y serons complètement. Amen. Et c'est une belle réalité. Nous réparer dans ce que nous sommes, mais nous réparer également dans ce que nous faisons, dans nos actions. Et là, il y a un autre texte, c'est dans Marc 1, 19, où on connaît tous ce passage, étant allé un peu plus loin. Il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et ils réparaient les filets. Les filets, ben, c'est l'activité, c'est les moyens dont ces pêcheurs ont besoin pour leur travail, pour ce qu'ils font. Sans filets, ben, ils ne produisent rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de revenus dans leur foyer, etc. Ils ne peuvent pas nourrir leur famille, et on a besoin également. On a besoin également que certaines de nos actions, de nos manières d'agir soient réparées, non seulement dans ce que je suis, mais également dans ce que je fais. Là, il y a un bel exemple, hein, c'est Luc 19, c'est Zachée. Combien j'aurais aimé avoir été volé, spoilé par Zachée. parce qu'il va réparer les achats. Ah, oui, un banquier nous le dit, là. Hein, voilà, Étienne. En tant que collecteur d'impôts, alors il faut remettre le contexte, hein, à l'époque, les collecteurs d'impôts devaient acheter leur droit de collecter des impôts aux Romains. Alors, je ne sais pas, moi, c'était au 1er janvier, ça devait tomber. Voilà, si vous voulez collecter les impôts à Jérusalem, il faut payer 100 pièces d'argent. Voilà. Et après, vous collectez. Que faisaient les collecteurs d'impôts? Ils avaient 100 pièces d'argent qui partaient au 1er janvier. À votre avis? Ben, ils disent, on va rentrer les impôts, mais il faut bien se payer pour que ces 100 pièces d'argent rentrent. Et puis, si je peux un peu plus, ben, voilà, hein, si je peux en avoir 200 ou 300 à la fin de l'année, ce sera bien. Et voilà comment on fonctionnait. Et Zachée fonctionnait comme les autres. Alors, je ne sais pas de combien il élevait les taxes hein, pour se rembourser de ses 100 pièces d'argent, mais il le faisait. C'était sa manière d'agir. C'était sa conception. Alors, bien sûr, ceux à qui il collectait les impôts le traitaient de voleur. Bon, est-ce qu'il avait cette mentalité? Je ne sais pas, mais au moins, il devait quand même se rembourser ses 100 pièces d'argent qu'il avait payées donc, aux Romains. Et alors, eh bien, lorsque Jésus va venir dans sa vie, alors, tout va être transformé. Hein. Il va changer de conception. Il va changer de conception et il va dire, en quelque sorte, eh bien, je vais réparer. Je vais réparer. Et là, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous vous rendez compte? C'est quel rendement, là hein? Je ne sais pas si vous avez un livret aujourd'hui qui vous donne à la fin de l'année 4 fois plus. Moi, je dis, j'aurais bien aimé avoir été escroqué ou spoilé par Zachée à ce moment-là. À mon avis, il y a dû avoir du monde. Tiens, Zachée, tu ne te souviens pas, hein, etc. Au quadruple. Il a changé, il a été réparé dans sa manière de concevoir ses actions. Je ne sais pas s'il a continué à être collecteur d'impôts, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il nous montre qu'il a été réparé dans la manière d'agir. Il faut le reconnaître. Eh bien, on a besoin aussi parfois hein, que Jésus nous aide à être réparé dans notre manière d'agir. Il y a un proverbe, vous le connaissez, « La fin justifie les moyens ». Ben non, non. Je crois que là aussi, dans ce domaine, Dieu va nous aider à réparer notre manière d'agir. Dieu répare, Dieu reconstruit la manière dont nous agissons afin de devenir aussi, pour les autres, une source de restauration. Et Zachée est en train de le vivre. Et il y a un beau texte, c'est dans Ésaïe 58, 9, 12. Voilà ce qu'il est dit. Tu appelleras l'Éternel, il répondra, tu crieras, il dira, me voici, si tu élimines de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, etc., etc. La suite nous dit ceci, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin rosé, etc., etc. Et voilà, les tiens rebâtiront ceux d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, ça c'est de la réparation. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Lorsque nous sommes restaurés dans la manière dont nous agissons, nous venons une source de bénédiction pour les autres. Et nous permettons à eux aussi d'être restaurés, de vivre quelque chose de la part du Seigneur. Et puis Ésaïe 61, verset 4, dit également la même chose. Ils rebâtiront ceux d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Nous sommes réparés dans la manière dont nous agissons pour que nous puissions aussi être une source de réparation pour les autres et que nous puissions apporter eh bien, cette réparation qui vient du Seigneur. Sommes réparés pour être préparés. C'est la dernière pensée ce matin. Vêtements du salut, de louange, de justice. Nous sommes réparés dans ce que nous sommes réparés dans ce que nous faisons. Eh bien, c'est quand même dans un but bien précis, c'est d'être préparé pour vivre dans l'éternité avec Dieu. Et ça, c'est le but qui nous dépasse, c'est le but dans lequel, quand on plonge nos regards, on dit « Seigneur, mais tu es au-delà de ce qu'on peut penser ». Préparer, littéralement, vous savez ce que ça veut dire? Ce matin, vous êtes préparé. À moins qu'il y en a qui soient de la dernière minute. Hein. Il y en a aussi qui sont de la dernière minute. Ils arrivent, le culte est à 10h, ils se lèvent à moins le quart parce qu'ils habitent tout près, etc. À 47, c'est le café. À 48, c'est les chaussures, etc. Et on sonne. Mais il y en a d'autres qui se préparent. Voilà. Parce que préparer, c'est s'apprêter d'avance. Il y a une idée d'anticipation par rapport à l'avenir. Par exemple, hein, la mission de Jean-Baptiste, vous la connaissez, lorsqu'un ange va parler à son père, il va dire « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Nous sommes parés, nous sommes réparés pour être préparés pour l'éternité. Être préparé, se préparer, c'est la priorité des priorités. Amos 4:12, c'est un verset que je connais bien parce que c'est un des premiers versets que j'avais collé sur ma 4L quand j'étais étudiant. Je me venais de me convertir et j'avais collé, c'était en plus en rouge, j'avais collé ça sur le pare-brise de ma 4L. Et je crois que ça a fait réagir certains, je vous l'ai déjà raconté, parce qu'un jour, en tant qu'étudiant, lorsque j'étais à Nancy, j'ai retrouvé ma 4L déplacée, qui était comme ça, mais mes copains l'avaient mise sur une pente comme ça, un petit peu scabreuse, hein, pour me faire une petite farce. Je pense que ce qui les avait interpellés à chaque fois que j'en prenais, c'était Amos 4:12, il est très court, hein, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Voilà, ça avait marqué ça, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Je pense que ça avait dû faire réagir quelques-uns. Bien. Mais c'est une réalité de nous préparer à la rencontre de notre Dieu parce que de toute manière, qu'on y croit ou pas, qu'on soit prêt ou pas, il faudra qu'un jour on y passe. D'être préparé, de rencontrer surtout notre Dieu. On entend parfois l'expression « Ah, c'était un bon vivant. Ah, il a réussi sa vie. Hein, il a profité de la vie, de ses richesses, etc. » Peut-être, mais après. Mais après. Est-ce qu'il était préparé pour l'éternité? Et puis on peut entendre aussi le contraire. Hein. Il y a eu ceux qui ont une vie difficile, ceux qui sont partis trop jeunes, ceux qui n'avaient jamais de chance, ils étaient nés sous une mauvaise étoile, etc., etc. Là encore, était-il prêt pour l'éternité? C'est la question. C'est la question. S'était-il préparé pour rencontrer Dieu? J'aime ce texte de Jean 14, verset 1-3, vous le connaissez, il est déjà affiché, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Et là, Jésus parle à ses disciples, ne parle pas au monde, mais il parle à tous ceux qui sont déjà parés, qui sont réparés. C'est à eux qu'il parle. Et il dit ceci, « Eh bien, moi, alors il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Amen. Quelle assurance ce matin, Jésus qui nous dit « Je vais vous préparer une place ». À nous qui sommes parés et réparés, eh bien le Seigneur nous dit « Je vais vous préparer une place ». Et quand cette place sera prête, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Et lorsque nous serons dans sa présence, eh bien là notre réparation sera parfaite. On sera comme Jésus. Un corps nouveau, il n'y aura plus ni deuil, ni grincement de dents, ni souffrance. On sera réparé parfaitement pour l'éternité. Il n'y a rien qui puisse ne pas être réparé et entrer dans le ciel. Il n'y a rien. Alors nous serons comme Jésus, hein, dans sa gloire, sans tache, ni rige, saint, etc., etc. Nous serons dans sa présence, réparés dans et pour l'éternité. Jésus nous prépare une place. Quelle perspective glorieuse. Préparons-nous, soyons prêts. Réjouissons-nous d'être parés, réjouissons-nous d'être réparés, parce que c'est de cette manière que Jésus nous prépare à sa rencontre. La sécurité civile ou la Croix-Rouge, j'écoutais ça cette semaine, conseille de préparer des sacs d'urgence. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais c'était une consigne de plus en plus devant les événements climatiques, hein, que ce soit les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre. Je ne vais pas vous effrayer, mais je vous rappelle qu'on est sous une faille sismique. Hein. Bon, voilà, mais on referme la parenthèse. Mais la sécurité civile conseille que chacun d'entre nous, on ait un sac, hein, ou quelque chose, un sac d'urgence, en tout cas de secours, en cas, par exemple, de coupure d'électricité. Dernièrement, il y a une coupure d'électricité chez ma mère. Voilà. Tout est électrique, y compris le portail. Portail électrique, voilà. Et on devait sortir. Les clés de secours ne marchaient pas. Il a fallu qu'à 84 ans, on porte ma mère, on lui fasse faire le mur, là, etc. Bon, elle a eu des problèmes de dos pendant 3-4 jours, voilà, mais pas d'électricité, coincée, à l'intérieur ou à l'extérieur. Là aussi, alors on vous dit, je vous donne la liste, hein, de l'eau, médicaments, nourriture, une source lumineuse, des couvertures, un poste radio avec des piles, etc., etc. Mais voilà, et parce que on s'est aperçu que parfois, bien, il manquait pas grand-chose, mais parce qu'il manquait quelque chose, ça a été difficile d'être prêt, d'être préparé. Alors, en conclusion, on va lire ce beau texte de Romains 8, 35, j'en ai parlé dès le départ. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée ? Selon ce qu'il est écrit, c'est la cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et il est dit, on cite ceci, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les sauts, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, il y en a un, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La volonté de Dieu, c'est que ce matin, personne d'entre nous soit séparé. Et voilà pourquoi nous sommes parés, nous sommes réparés et nous sommes préparés afin de ne jamais être séparés. Et je crois que ce matin, on peut se réjouir de tout notre cœur, alors que le nom du Seigneur soit béni dans sa bonté, dans sa grâce. Eh bien, ce matin, il nous dit, mais je t'ai paré d'un vêtement de louange, de salut, de justice. Je te répare dans ce que tu es, dans ce que tu fais, pour que tu sois préparé, pour qu'au moment où tu viendras me rencontrer, où je viendrai te rencontrer, eh bien, nous puissions passer l'éternité ensemble. Amen. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques instants de prière, parce qu'il y a peut-être quelqu'un ce matin qui se dit, bien, moi j'ai besoin de cette parure, j'ai besoin d'être réparé pour être préparé. Et ce matin, c'est l'occasion. Et puis, nous qui le connaissons de cette manière, eh bien, de nous réjouir. Seigneur, merci. Merci pour ce moment.